Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Georges. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en état de retour de la relâche. J'espère que ça va bien se passer. Il faut se recontracter. Et puis, je vais parler aussi aujourd'hui de la littératie de la paix, entre autres, parce qu'on entend parler de l'écolittératie, puis l'alphabétisation ordinaire, mais il y a aussi une littératie de la paix dont il faut se dire des mots. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu une publicité sur le droit animalier. Bien, c'est ça, c'est le fun qu'il y ait un organisme ici qui s'intéresse au droit animalier. Je vais en parler aujourd'hui à un moment donné. OK. Fait que je vous ai déjà dit, Edgar Mitchell, c'est un ancien astronaute qui a marché sur la Lune, mais il a écrit deux livres. Et puis il y en a un qui est ici à la bibliothèque de la ville de Sherbrooke, là. C'est « La Terre se lève ». Fait que ce monsieur, disons qu'en je vais le dire en mes mots avant de lire un peu des extraits. Donc, il a marché sur la Lune, puis il était dans sa capsule au retour de la marche. Et puis, avant qu'il revienne sur la Terre, il y avait beaucoup d'expériences scientifiques à faire. Et son appareil faisait un tour sur lui-même, 360 degrés. Puis, à un moment donné, qu'il y a eu quelques instants de libre, il a regardé par le hublot. Et là, il s'est vraiment émerveillé devant l'immensité, la beauté du cosmos qui s'offrait à ses yeux. Fait qu'il a eu un sentiment océanique, une sorte d'extase, de très grand bonheur, d'émerveillement. Et puis, à son retour sur Terre, il a décidé de consacrer le reste de sa carrière à la création d'un institut pour l'étude scientifique de la conscience et de l'esprit humain. Lui qui avait voyagé à l'extérieur décidait maintenant de voyager à l'intérieur. Alors, l'organisme en question qu'il a créé, ça s'appelle l'Institut des sciences noétiques en français, en anglais Institute of Noetic Sciences. Tout à l'heure, je vais vous parler de Willis Harman, son livre sur la créativité, pour faire une introduction à la paix, parce que Willis Harman disait que le summum de la créativité, c'est de créer la paix dans le monde. Il disait que la paix globale est possible et rien de moins intolérable. C'est une nouvelle croyance qu'il faut ingurgiter, mettre dans nos cellules, se dire que la paix globale est possible et que rien de moins intolérable, justement, ce qui suppose qu'il faut délégitimer la guerre. Et à la fin de son livre, il dit... Let us envision, tu sais, consacrons-nous à imaginer cette utopie et, dans un deuxième temps, à la réaliser. Alors, j'aime beaucoup ça, puis c'est un peu ça, cette émission, parce que envisager l'utopie, c'est un peu ce que je fais dans le sens que je veux communiquer. La capacité et la possibilité de créer un beau futur, un beau monde nouveau, qui peut s'imbriquer dans le présent aussi. C'est pas juste le futur, là. C'est la bienveillance, la gratitude. Bon, c'est dans le présent qu'on peut. Cependant, l'abondance pour tout le monde, c'est pas encore réalisé. Exemple, un revenu de base pour tout le monde, c'est pas là encore. Alors, ça pourrait faire partie de, justement, cette utopie qu'il faudrait, d'une part, imaginer, d'autre part, mettre en œuvre. Alors, Edgar Mitchell, il dit qu'il faisait des expériences de télépathie. Hein? Disons qu'il faisait des dessins, puis il s'était pré-entendu avec quelqu'un sur la Terre. Là. Fait que plus tard, en revenant, il a examiné les dessins qu'il faisait, puis ça correspondait dans un très grand pourcentage avec ce que la personne sur Terre avait fait. Fait qu'il dit que la Terre est un endroit exceptionnel. Et je m'estime très chanceux de vivre là. Je crois que chacun d'entre nous est connecté non seulement avec toutes les formes de vie de cette planète, mais aussi avec l'ensemble de l'univers. J'espère que la paix sur Terre ne restera pas un vœu pieux, mais qu'elle deviendra un jour une réalité. Alors, ça me permet d'introduire un peu le thème de la paix, parce qu'il me reste celui de la paix à creuser et à communiquer avec vous, de même que celui des Premières Nations et enfin la réforme de la démocratie. Puis là, on sera rendu à Noël, à ce moment-là. Et puis, il dit que, Edgar Mitchell, qu'il parle de notre incroyable vaisseau Terre. Je suis encouragé par le fait que de nombreuses personnes réfléchissent aujourd'hui à ce qu'elles mangent, au lieu où elles vivent, à leurs moyens de locomotion et à la façon dont elles se traitent les autres. Des scientifiques, des ingénieurs et de nombreux particuliers travaillent d'arrache-pied pour créer un monde durable, plus durable et plus sain où l'eau, l'air et l'énergie seraient plus propres grâce à l'exploitation de sources d'énergie alternatives comme l'éolien ou le solaire. L'auteur et futurologue Buckminster Fuller a soulevé un point important lorsqu'il a écrit la Terre comme un gigantesque vaisseau dont les humains seraient en quelque sorte l'équipage, et c'est pourquoi il exhortait les gens à vivre en bonne intelligence sur notre vaisseau Terre si spécial. Alors ça me permet, c'est ça, ça fait une introduction à cette émission-là. Edgar Mitchell, de par son livre « La Terre se lève ». Et ça me permet de vous parler un petit peu, encore une fois, de Buckminster Fuller. Je l'aime beaucoup parce que c'est le premier qui a dit officiellement et clairement et scientifiquement, disons en 1980, mais il avait commencé avant ça, là. Mais en 1980, c'était une synthèse claire dans son livre « Critical Path ». Que nous avons désormais, nous avons toujours eu toutes les ressources, mais nous n'avions pas le savoir et la technologie pour les développer de façon à donner une belle qualité de vie à toute l'humanité. Et ce faisant, sans détruire l'écologie et ce faisant, sans faire de guerre pour y arriver. Alors moi, j'ai trouvé ça extrêmement motivant, extrêmement intéressant. Et j'en suis pas revenu, j'en parle encore. Fait que, donc, dans son livre « Grunts of Giants », qui était une suite à Critical Path, là. Grunge of Giants, ça veut dire Gross Universal Cash Haste, la saisie du cash. Hein? On voit ça aujourd'hui, hein? Qui fait ça, la saisie du cash? Les Américains, pas mal, puis pas juste eux autres, là, les milliardaires du monde. Et puis aussi, il n'y a pas juste la saisie, il y a aussi l'émission. Qui fait le plus d'émissions de gaz à effet de serre? C'est ça, les États-Unis. J'ai vu ça de la part de Sila Watt Cloutier, une Inuit, dont je vais vous parler un peu plus tard. Alors là, avant de s'enfoncer dans les problèmes, enfonçons-nous plutôt dans les solutions. Alors, Buckminster Fuller, il y a deux solutions dont je vous ai peu parlé. Il y en a une, celle dont je n'ai jamais parlé, là. D'abord, il a fait une carte géographique différente basée sur les triangles. Il appelait ça la Dimaxion Map. Il avait aussi des projets de Dimaxion Car puis Dimaxion House. Ça va être tout à l'heure, je vais vous dire ça. Fait que la Dimaxion Map, c'est en se servant de triangle, il fait une carte géographique différente des autres. Et les pitonneux d'Internet, là, regardez-la, Dimaxion Map, vous pouvez la voir dès maintenant. Alors là-dessus, il a fait inventer un réseau mondial de transport d'électricité. La première connexion se ferait au détroit de Bering. Il parlait d'un câble sous-marin. Moi, j'ai lu dans la presse récemment qu'il y a un nouveau projet russe et américain de tunnel entre les États-Unis et la Russie via le détroit de Bering. Alors, peut-être que les fils du premier réseau, premier contact de ce réseau mondial de transport d'électricité pourraient être dans ce tunnel, mais de toute façon, ça serait dans le détroit Bering, OK? Fait que là, le réseau mondial de transport d'électricité se construit, puis un jour, on l'a, OK? C'est réglé. Fait que il disait que ce réseau-là serait à l'avantage de tous et au désavantage d'aucun. Et puis, évidemment, il capterait l'énergie éolienne partout, et seulement avec l'énergie éolienne, nous en aurions, disait-il, 2000 fois trop qu'on en a besoin. Il parlait pour à peu près 1980. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on aurait peut-être 1500 fois trop. Bon, d'accord. Fait que c'est une bonne nouvelle, ça. Et puis aussi, une autre innovation qu'il a fait, Buckminster Fuller, c'est la Dymaxion House. Dymaxion, c'est une contraction de dynamisme maximum et ion. Alors, il a fait inventer une toilette qui recycle les déchets humains. Et puis, il y avait aussi une douche qui réduit extrêmement l'eau dont on a besoin pour bien se laver. Il appelait ça le fog gun. Et puis, c'est un fusil à brouillard. Mais finalement, hier, je suis allé à Pierre-Réseau, puis pour les orteils et tout ça, là. Alors, il y avait un fusil à eau très brouillard là, qui prend pas beaucoup d'eau. Là. C'est peut-être, 40 ans plus tard, une sorte de manifestation du fog gun de Buckminster Fuller. Et puis, il avait donc le Dymaxion House. Alors, dans cette maison-là, elle génère sa propre énergie, elle génère une partie de la nourriture et elle recycle les déchets, incluant les déchets humains. Et avec le temps, c'est à peu près en 1927 qu'il a commencé à penser à ça. Puis en 1980, bien, il a expertisé ce domaine-là et il a inventé le Fly High Dome. Alors ça, c'est une maison, il l'avait pensé pour qu'elle se produise dans des usines d'automobiles désaffectées et qui seraient réoutillées avec de l'outillement de niveau de l'équipement spatial là, du 1 millionième de pouce. De sorte que, là, il parle pour 1980, il pourrait en sortir 2000 par jour dans cette usine-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être 4000 parce que ça serait plus rapide. Et puis, toujours en 1980, il y avait 4 milliards de personnes. Aujourd'hui, on est le double. Alors, il disait qu'on a besoin de 2 milliards de nouvelles maisons tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 4 milliards. Alors, donc, c'est ça, produire de 2 à 4 000 nouvelles maisons par jour par usine pour loger l'humanité le plus vite possible. Et le logement en question, c'est autonome en énergie, comme je disais, puis il coûterait ce que ça coûte pour un téléphone mensuellement, tu sais, une cinquantaine de dollars par... mensuellement, oui, 50 dollars. Et puis, vous seriez logé, puis nourriture, déchets, puis aussi, en plus, elle pourrait se transporter. C'est-à-dire qu'elle pourrait être levée par un hélicoptère, là. Mais là, c'est ce qu'il aimait ça, lui, aller flyer, justement. Fly high. Tu le transportes par hélicoptère où tu veux. Parce que non seulement tu as une maison, mais aussi tu as le revenu de base très élevé, tu sais. De sorte que tu n'as vraiment plus besoin de travailler. Tu fais ce que tu aimes. Tu vas à la pêche. Puis tu as des idées. Puis les idées que tu as en allant à la pêche, ça, il dit ça dans le manuel d'instruction du vaisseau spatial Terre, écrit en 1969, traduit par Ronnie Pelletier de Sherbrooke. Et entre parenthèses, ce que j'ai déjà dit, mais j'aime à le répéter, il a travaillé ici en 1914 à Sherbrooke, le Buckminster Fuller, il avait 19 ans. C'était une punition parce qu'il avait tout démasqué sa bourse pour une compagnie de théâtre qu'il aimait, il y avait sa blonde là-dedans. Alors, ses parents étant choqués qu'il avait tout démasqué sa bourse pour... pas pour ses études, pour les loisirs. Il l'a envoyé ici à Sherbrooke réfléchir, travailler au moulin à coton sur la rue du Pacifique, qui était géré par son oncle. Alors, il a aimé cette expérience ici, puis il a aimé les Canadiens français de l'époque. Et puis, on le connaît tous, la plupart de tout le monde le connaît parce que, sans le savoir, on le connaît parce que c'est lui qui a fait le pavillon des États-Unis, c'est-à-dire le dôme géodésique qu'on peut voir sur l'île Notre-Dame aujourd'hui, qui abrite un musée de l'environnement, je pense, qui s'appelle la biosphère. Alors, tu sais, ça, c'est un exemple de faire plus avec moins, là, la synergie dont tu lui parlais. C'est la structure qui permet d'inclure le plus d'espace avec le moins de matériaux, c'est le dôme géodésique. Parce que ce sont des vecteurs qui tiennent la structure ensemble plutôt que des briques. Donc, ça prend moins de matériaux et moins d'énergie. Malheureusement, en chemin, ceux qui se sont emparés de cette idée-là, c'est les bourgeois, les riches milliardaires, qui font plus de production avec moins d'humains. Buckminster Fuller ne parlait pas de ça, il parlait de moins d'énergie, moins de matériaux. Et puis, une autre stratégie qu'il a inventée, c'est le World Game. Ça, c'est le contraire de War Game. War Game, ce sont les généraux qui essaient, les généraux de guerre, là, qui font des scénarios de guerre pour voir c'est quoi la meilleure manière de, qu'on peut faire pour tuer ou contrôler le plus longtemps possible, le plus vite possible, puis peu importe le coup, là, OK? Fait que lui, il a pensé au contraire, c'est le World Game, c'est quel scénario faire, créer pour qu'on arrive très, le plus vite possible au succès de l'humanité. Le succès de l'humanité, c'était justement que tout le monde vive bien écologiquement et pacifiquement. Et puis, un de ces scénarios-là, c'est, ça s'appelle Hoping, Food for Everyone. Ça a été écrit en 1970. Donc, c'est ça, c'est le fruit d'un World Game, c'est-à-dire plusieurs personnes se mettent ensemble et imaginaient des scénarios, puis le scénario qui a gagné, là, c'est Food for Everyone. Les stratégies sont expliquées dans ce livre-là. Puis il y a un autre World Game qui a été fait, c'est sur l'énergie. Fait qu'il y a un livre qui a été sorti aussi à peu près en 1975. C'est Energy for Everyone. Fait qu'aujourd'hui, j'ai en main un nouveau livre, écrit 2024. Veut-on nourrir le monde? Franchir l'Everest alimentaire en 2050. Fait que, tu sais, ça a été écrit parce qu'on ne l'a pas fait en 1980. Ce qu'on aurait pu faire si on avait été tous et tout informés, là, nous aurions pu, en 10 ans, exploiter son plan. C'est, il appelle ça le Design Science Strategy. Et puis, en 10 ans, soit en 1990, nous aurions eu la paix sur Terre, c'est-à-dire que tout le monde aurait bien réussi à avoir de la nourriture et de l'eau. Donc, on n'a pas réussi, mais on se reprend 40 ans plus tard. Fait que, page 20-21, il dit, l'auteur, c'est Sébastien Abyss, « Il était une fois la sécurité alimentaire mondiale, enjeu se représentant au 21e siècle, dans un contexte atypique. Nourrir et réparer la planète, nous l'avons dit. C'est la double mission à mener, à réussir ou rien, sachant que cela n'a jamais été fait et que nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre et que nous avons tout autant besoin de nourriture que d'oxygène pour vivre en sécurité, en bonne santé et durablement. » Alors, franchir l'Everest alimentaire, c'est une belle métaphore, là, de ce siècle, c'est construire une sécurité alimentaire pour le plus grand nombre en réduisant les victimes au maximum et en garantissant les conditions de vie favorables ou meilleures qu'aujourd'hui pour qui sera encore présent sur les chemins de ce lointain à venir. Alors, les uns avec les autres, ou du moins entre autres, c'est tous ceux et celles qui peuvent faire bouger les choses et aspirent à rendre ce demain bien meilleur que celui que nous l'avons très noir, ce demain noir, en fanfare dans la torpeur ou le radicalisme. Je ne sais pas si vous entendez mon téléphone, je suis désolé. Je vais le mettre à off, ce ne sera pas long, car je vais arrêter de parler. Et puis, là, j'arrive à Willis Harman. Lui, c'était un ingénieur professeur à Stanford. Et il avait été président de l'Institut des sciences noétiques à son tour. Parce que je viens de vous dire que Edgar Mitchell avait fondé l'Institut des sciences noétiques. Alors, Willis Harman en a été le président. Et puis, dans son livre qui s'appelle « Higher Creativity » que j'ai entre les mains, et dont la traduction a été faite, mais aujourd'hui, ça, vous n'en trouvez pas, sauf dans quelques bibliothèques municipales, et aussi à la Bibliothèque nationale du Québec. Alors, c'est là qu'il dit, après avoir décrit l'Institut des sciences noétiques, que la paix, tu sais, c'est très important, puis si c'est notre avenir, ça prend de la paix sur Terre. Mais qu'est-ce que la non-paix? C'est le premier qui dit c'est quoi la non-paix. Alors, la non-paix, c'est premièrement la menace constante du déclenchement d'un conflit nucléaire avec ses pertes de vie massives et son cortège de désolation. Deuxièmement, ce sont les guerres locales persistantes utilisant des armes conventionnelles et laissant dans leur sillage un flot de misère humaine. Bon, c'est ce qui se passe au Soudan actuellement, en Ukraine. C'est presque fini... là-bas, à Gaza. Et puis, troisièmement, c'est une course aux armements universels qui entraîne des dépenses dépassant le milliard de dollars par jour. Aujourd'hui, c'est pas loin de 2 milliards. Et des pays parmi les plus pauvres qui dépensent plus en préparatifs militaires que pour les soins de santé, c'est le Canada, actuellement. l'éducation et la sécurité sociale réunies. C'est aussi une pauvreté galopante accompagnée de maladies, de malnutrition, de famine et de tout le stress causé à l'environnement par l'élevage à outrance, le déboisement systématique, l'érosion des sols et la pollution des eaux de surface. Parler à Richard Desjardins du déboisement systématique et la pollution des eaux de surface, ça se passe même ici à Sherbrooke, parce qu'il y a 1200 déversements annuels d'eau usée dans la rivière. Puis, dans un livre plus récent, c'est « La planète aqua », dont j'ai parlé aussi. Il dit, à la page 124, que pourtant, 171 ans plus tard que ce que le Royaume-Uni avait dit en 1852, là, en 2023, 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à une eau potable gérée de façon sûre. 4,2 milliards de personnes, la moitié de la population mondiale, n'ont pas de sanitaire dans leur maison. Et 3 milliards de personnes n'ont pas d'installation rudimentaire pour se laver les mains et n'ont même pas accès au savon. Tout ça, c'est triste, mais c'est complètement dans le sens que ça n'a pas de raison d'être, puisqu'on est capable depuis longtemps de se donner une belle qualité de vie. Et puis, tout à l'heure, j'entendais une publicité sur le droit animalier. Fait qu'Edgar Mitchell, je lui ai dit qu'il avait fait des expériences de télépathie. Ça fait que je vais vous parler de ça dans un petit instant. Puis ce petit instant, c'est en lien avec aussi... Tu sais, tout est interconnecté, n'est-ce pas? Alors, les changements climatiques, là, j'arrive à ça. Je suis allé à la FADOC en fin de semaine, à la foire de Sherbrooke, là. Puis j'ai vu une publicité, ça s'appelait dans la revue Ancrage, c'est un bulletin d'information du Centre de recherche sur le vieillissement. On parle d'un programme des générations réunies pour l'environnement, une occasion de participer socialement. Alors que l'engagement pour l'environnement est essentiel afin d'assurer la qualité de vie de toutes les générations, des études récentes ont révélé que les personnes aînées associent souvent leur volonté de préserver l'environnement à celui de transmettre un avenir meilleur à leurs enfants, leurs petits-enfants et ceux de l'entourage. Le programme Génére sera mis en œuvre au début de 2026 à la maison des grands-parents de Sherbrooke. Alors, c'est ce qui est annoncé. Et j'aurai le plaisir de recevoir Stéphanie Ménet, une chercheure. Je vais la recevoir au Radioton vendredi le 7 à 10 heures avec quelques autres personnes, dont par exemple Père Mission. Et puis, vous êtes au courant du changement climatique? Et vous connaissez peut-être Greta Thunberg. Eh bien, dans un discours qu'elle a prononcé, j'ai ce discours-là ici devant moi, qui dure 4 minutes à lire, 4 minutes et 26 secondes, mais je vais vous lire quelques extraits seulement. Tout ceci ne va pas. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, parce qu'elle parlait à l'ONU, pourtant, vous venez nous demander à nous, les jeunes, de l'espoir. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles vides de sens. Et encore, je fais partie des plus chanceux. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous parlez, c'est de l'argent, du conte de fées, d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? L'idée commune qui consiste à réduire nos émissions de moitié dans 10 ans ne nous donne que 50% de chances de rester en dessous de 1,5 degrés Celsius de réchauffement et du risque d'entraîner des réactions en chaîne irréversibles, incontrôlables. 50%, c'est peut-être acceptable à vos yeux, mais ce nombre ne comprend ni les moments de bascule, ni les réactions en chaîne, ni le réchauffement supplémentaire caché par la pollution toxique de l'air ou les notions d'égalité et de justice climatique. Ces chiffres reposent aussi sur l'idée que ma génération réussira à absorber des centaines de milliards de tonnes de CO2 avec des technologies encore balbutiante. Donc, 50% de risque de rester en dessous des 1,5% de hausse de température, ce n'est pas acceptable pour nous, qui devrons vivre avec les conséquences. Comment osez-vous vous prétendre que cela peut être résolu en faisant comme d'habitude et avec quelques solutions techniques? Mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Les yeux de toutes les générations futures sont tournés vers vous. OK. Fait que c'est Greta Thunberg. Son discours, c'est une bonne partie de ce qu'elle disait. Et puis, en examinant... la question climatique. Puis en allant justement à la FADOC et pas juste ça, en allant faire vigile en face du conseil municipal, ça a eu lieu cette semaine, ça. J'ai eu un document qui s'appelle L'environnement, un enjeu des droits humains. C'est publié par la Ligue des droits et libertés. Bon, mais c'est 2014. Ça ressemble pas mal à un document qui a été publié en 2005 par Sila Watt-Cloutier. C'est une Inuit et c'est une pétition qu'elle a faite. Ça lui a pris 12 ans pour faire de la recherche, pour faire ça. Une pétition pour, disons, demander justement la baisse des gaz à effet de serre, là, parce que c'est les États-Unis qui en ont émis le plus puis qui en émettent encore le plus, dit-elle, puis qu'il faudrait, au nom du droit, alors le droit des humains, dire non à ça. Et des fois, c'est complexe, c'est difficile à comprendre les changements climatiques, mais moi, son apport m'a fait comprendre vraiment beaucoup plus facilement, parce qu'elle dit que si l'Arctique fond, bien, le reste de la planète va réchauffer tellement qu'elle va s'effondrer, tu sais, la biodiversité et tout, là. Alors, j'ai trouvé ça très simple et facile à comprendre. Si l'Arctique fond, bien, le reste n'ira pas bien. Alors, il faut éviter que l'Arctique fonde, puis ça s'est déjà commencé, n'est-ce pas? Alors, elle a écrit un livre qui s'appelle « Le droit au froid, le combat d'une femme pour protéger sa culture, l'Arctique et notre planète ». C'est de Sheila Watt-Cloutier. Bon. Alors, c'est en 2019 que ça a été publié en français, probablement en 2017 en anglais. Il est à la bibliothèque d'ici, de la municipale, là, mais il est sorti, il n'est pas disponible encore. Fait qu'un peu de patience, il va finir par revenir. Puis, il y a un article dans climateaccess.org. C'est Kwapirangarjuk, c'est un mot inuit, là. C'est connaissance des Inuits et changement climatique. Alors, je vous encourage à aller voir ça. Puis moi, j'ai sa pétition ici, là. C'est en anglais, c'est 9 pages ou 12 pages, je pense. Fait que c'est ça, c'est super intéressant. Et puis donc, ça nous remet sur les changements climatiques. Et moi, ça me remet sur l'ONU, on va dire, qui nous dit que les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique, ce sont des émissions très importantes. Fait que les Nations Unies publient une lettre de nouvelles au ONU Info. C'est quotidien. Je vous encourage à vous abonner. Puis abonnez-vous aussi au Rocky Mountain Institute. Ça, je reçois ça tous les jeudis matin. Puis des fois, je vous donne des nouvelles, mais pas aujourd'hui. Abonnez-vous à ça, c'est gratuit. Donc, dans la presse, il y a un article d'un médecin, Claudel Pétrin-Desrosiers. C'est peut-être un extrait de son livre. C'est sur l'Assemblée planétaire. Le titre, c'est « Silence radio ». Elle parle des changements climatiques dont on ne parle pas. Et elle dit que c'est « silence radio ». Moi, j'ai vu ça, j'ai dit « non, moi, j'en parle ». Ce silence sur les enjeux de santé liés au climat nous donne l'impression qu'ils ne sont pas importants, qu'ils ne comptent pas, qu'ils sont inévitables. Pourtant, il n'y a rien de plus faux. En politique, la responsabilisation ou l'imputabilité se bâtit de différentes façons. Mais un leadership assumé ou présence publique et une reconnaissance sans détour des enjeux sont un bon point de départ. Répondre aux médias et donc à la population, c'est tout aussi essentiel. Pour demain, nous devons faire taire le silence. C'est Greta Thunberg qui a fait ça aussi, en plus des médecins, là. Tous les ordres de gouvernement doivent lier climat et santé, autant dans la parole publique que dans l'action. Une reconnaissance politique à la hauteur de la crise actuelle, comme vient de le faire la Cour internationale de justice, est nécessaire. Alors, dit Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin autrice de la santé planétaire. Et bon, ben l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, aussi publie une infolettre, là, fait que je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, leur dernière, ça s'appelait « Dépensement sur une plaie béante », où ils critiquent le gouvernement Legault, mais aussi pointent vers la transition écologique. J'ai cliqué là-dessus, puis ça donne un texte de 59 pages sur la transition écologique. Et puis, pour être plus efficace et inclusive, cette transition écologique requiert de la planification et des investissements. Alors, j'ai cliqué sur cette planification, puis ça mène à un document sur une alternative au capitalisme. Alors, je vais interviewer quelqu'un en novembre. Je ne peux pas vous dire encore comment, là, ou exactement quand, là. Mais il va y avoir une entrevue sur c'est quoi, du point de vue de l'IRIS, l'alternative au capitalisme. Et puis, la transition écologique, bon, c'est ça qui est ça. Et qui mène le monde? Bien, pour Sylla Watt-Cloutier, qui vient de publier son livre « Le droit au froid », c'est les États-Unis, et Noam Chomsky, dans son livre qui s'appelle « Qui mène le monde », un livre de 338 pages. Là. Finalement, ben, c'est qu'il y a deux superpuissances. Peut-être la Russie, puis les États-Unis. Mais tu sais, j'ai pas mal de pages, là. C'est très important. C'est trop long à vous dire. Allez voir ça, Noam Chomsky, qui mène le monde. Il dit que de moins en moins de contraintes par la structure que l'on dit encore démocratique, les puissances mondiales d'aujourd'hui ont un tel potentiel destructeur qu'il est plus urgent que jamais de prêter attention à leurs détracteurs. Je suis allé, comme je disais tantôt, en face de l'hôtel de ville, c'est avant-hier, invité par Solidarité populaire Estrie. Il y a eu de l'information, nous étions à peu près 25 dehors, là. L'information qui était donnée, c'était par une personne de l'organisme CHEAP, C-H-E-A-P. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est Archives Histoire, là. Fait qu'elle faisait de l'information sur le développement du complexe militaro-industriel à Sherbrooke via les zones d'innovation. Donc, c'était super intéressant. Puis, j'ai entendu parler aussi d'un livre de Mathieu Bellil, c'est une brève histoire de l'espoir. Fait que c'est grave, c'est difficile, mais sachez qu'il y a un livre qui s'appelle « Une brève histoire de l'espoir » qui peut nous requinquer, si on le lit. Et le collectif Échec à la guerre. Soudainement, je lève les yeux et je m'aperçois qu'il est 11h32. J'ai complètement oublié la publicité. Je vous reviens, ce ne sera pas long. Vous êtes de retour à « Nous le futur » avec Claude. C'est Élise Appy qui chantait « Stop ». Alors, le collectif Échec à la guerre, je vous le rappelle, lance une invitation à participer à l'action média annuelle de la campagne du coquelicot blanc. Il y a Solidarité populaire Estrie aussi qui fait cette campagne-là à Sherbrooke. Et je vous encourage à vous abonner à le Bulletin of the Atomic Scientist. Dans le dernier, là, c'est « Trump wants dénucléarisation, mais fait la poursuite du Golden Dome, là, le dôme pour... se protéger. Et le bulletin des scientifiques atomiques démontre que ça ne marchera pas, ce dôme-là. C'est pas une bonne idée, ça coûte cher pour rien. Et puis, il y a aussi un article sur un film qui s'appelle House of Dynamite. C'est à propos d'une guerre nucléaire, là. Fait que il y a une conversation avec la réalisatrice de ce film-là. Puis, il y a Daniel Ellsberg. Ellsberg. E-L-L-S-B-E-R-G. Qui parle de comment démanteler la machine de guerre nucléaire et totale américaine, là, puis aussi totale mondiale. Fait que moi, j'avais imprimé ça, puis j'avais oublié de le lire. C'est la première chose que je vais faire en sortant du studio. Je vais lire ça. Daniel Ellsberg on Dismantling Doomsday Machine. OK. Bien, tu sais, je vous dis, le fait que je n'étais pas stressé pour le lire tout de suite, là, c'est parce que je sais, moi, ça, qu'on peut... défaire la machine de guerre. Je l'ai appris par Buckminster Fuller qui lui parlait de livingry au lieu de killingry. C'était le fun. C'était bien résumé. Puis, je vous ai parlé souvent de Seymour Melman, cet ingénieur industriel états-unien qui travaillait à l'Université de Columbia, qui a écrit au moins 25 livres sur justement cette question de la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles, pour dire que c'était vraiment facile et faisable. Mais, tu sais, l'industrie militaire états-unienne, il ne faut pas oublier que c'est la première industrie des États-Unis. 51% des industries états-uniennes sont militaires. Alors, c'est vraiment surprenant, tu sais. Ils sont partout. Et puis, eux autres, ils ont besoin de référendum, ils ont gagné. C'est la souveraineté du militaire qui est là. Donc, c'est ça, c'est facile. Mais le fait que ce soit 51%, ça fait que l'argent va là-dedans au lieu de dans la santé, l'éducation, l'infrastructure américaine Et on pense que, tu sais, Trump, make America great, là, elle n'est pas great du tout, du tout, là. C'est une économie de deuxième ou de troisième niveau, là. Ça va assez mal pour les gens qui ne sont pas milliardaires. OK. Alors, on va parler un peu de ville, tu sais, de municipalité, de changement climatique. L'ex-maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, il dit que il devrait y avoir plus de participation citoyenne dans les municipalités. Mais je suis d'accord avec lui, évidemment. Et peut-être qu'il pourrait y avoir une assemblée citoyenne à Sherbrooke qui a pour but peut-être de surveiller le conseil municipal, comment ça va, est-ce que c'est juste. Mais ce n'est pas juste surveiller, c'est aussi faire des propositions. Alors, une assemblée citoyenne municipale devrait avoir un local et un budget payé par la ville, selon Roméo Bouchard. Et puis, l'ex-maire de Gatineau est sûrement d'accord avec ça. Donc, M. Pedneau-Jobin réclame plus de démocratie et d'argent pour nos villes. Ça, c'est dans la presse qu'il dit ça. Et il y a un autre organisme qui s'appelle l'Agora. Je vous encourage à aller voir ça, qui examine aussi la question des municipalités, de la santé et des changements d'infrastructures. Par exemple, ils ont des études sur les impacts des changements climatiques sur les zones urbaines. Et puis, ils disent que plus de 8 millions de Québécois sur 10 veulent que les municipalités agissent pour le climat. C'est pas trop ça, là. Fait que, sachant cela, on devrait agir plus rapidement. Tout à l'heure, j'ai parlé de qui contrôle le monde. Il y a un article dans Le Devoir, « Face à l'oligarchie, la démocratie des multitudes ». Alors, les multitudes, je vous encourage à aller voir ça. Ça examine toute la question municipale. C'est bon de lire ça à l'occasion des élections municipales. Ça a été fondé par, en tout cas, cofondé, M. Pedneau-Jobin. Vous pouvez aller voir ça, Multitude et Agora, dans Internet. Ça va vous mettre au diapason. Si ce n'est pas déjà fait, là, peut-être que je ne présume pas que vous ne connaissez pas ça, mais mettez-vous au diapason de la paix via les municipalités. Alors maintenant, je vais commencer à parler de la paix comme telle. Tu sais. Fait que je vais m'inspirer pour faire ça du livre de Raoul Duguay, Tout est dans tout, le livre de ma vie. C'est un livre vraiment récent. Fait qu'il parle de la créativité. Il dit que la créativité n'est pas le fief absolu des artistes. Elle se manifeste dans toutes les sphères de la société. Bien que le terme artiste désigne une personne qui consacre sa vie à une forme d'art, toute personne a recours à son imagination créatrice dans son quotidien pour trouver les réponses à sa question. Je suis d'accord avec ce que proclame le philosophe Éric Gill. L'artiste n'est pas une personne d'une espèce différente, mais toute personne est une différente espèce d'artiste. Ça me rappelle ce que disait M. Pierre Jasmin, qui est secrétaire des Artistes pour la paix, qui est venu ici deux fois. Et puis, les Artistes pour la paix, ça a été presque entièrement fondé, mais en tout cas cofondé par Raoul Duguay aussi. Fait que dans son chapitre « Nature et culture », il dit « L'anthropologie nous enseigne qu'il y a près de 10 000 ans. » Homo sapiens inventait l'agriculture et qu'il y a 6 000 ans apparaissaient les premières écritures qui allaient permettre à l'humanité de transmettre les messages à travers l'espace et le temps. Fait que là, je passe à son autre chapitre, c'est vers la fin de son livre, là, page 508. « L'eau et la paix. Tout citoyen a non seulement le droit d'exprimer son opinion sur tout ce qui touche l'évolution ou la régression de la société dans laquelle il vit, mais aussi et peut-être surtout, le devoir de le faire quand la nature dans laquelle il vit et la culture dans laquelle il baigne sont menacés par un mercantilisme outrageux. L'affaire des artistes, c'est, comme celle de tout citoyen, de faire en sorte que l'art qu'ils pratiquent puisse ouvrir l'imaginaire collectif à des dimensions plus profondes et plus palpitantes que la pensée unique des industries privées qui font chanter les gouvernements. La pire des pollutions se trouve entre les oreilles des profiteurs. La conscience écologique transcende et les affaires et la politique. L'enjeu du sommet de Johannesburg était de taille, mettre le secteur privé au service de la protection de l'environnement. N'est-il pas logique de vouloir sauver la planète? Où est la logique dans le darwinisme socio-économique? N'est-il pas logique de vouloir changer le monde où la démocratie fout le camp? N'est-il pas logique de tout faire pour sauver l'humanité? Donc, c'est Raoul Duguay qui dit ça. Et il conclut, « Si nous voulons la paix sur Terre, il faut donner à tous ses habitants, sans exception, de l'eau de qualité potable en quantité suffisante, de l'air pur, des terres saines. Sinon, c'est toute une civilisation qui finira par devenir un désert. » Et c'est Raoul Duguay, dans « Tout et dans tout », son tout nouveau livre. Je pense que c'est 2025. Je vais trouver ça. Excusez pour les quelques secondes de silence. Ça me permet de revenir à la publicité. Nous sommes dans le moment de la publicité et je vous reviens tantôt. C'est à nous le futur et c'est Claude qui vous parle. Yo! Dans le futur, surtout dans le présent, ça groove plus que je pensais. Je m'attendais à une publicité, puis j'ai eu ça. Je vous le signale, le livre « Pour la paix, prison le silence », suivi du manifeste pour la paix, des artistes pour la paix, c'est par André Jacob et autres, aux éditions Pleine Lune en 1984. Et le livre de Duguay, c'est en 2024. Fait que le manifeste pour la paix commence comme ça. « Oui à la paix, mais la guerre veille jour et nuit. » Guerre est plus qu'un mot inquiétant, c'est le visage balafré de la vie. Là, je saute bien des pages et j'arrive à... Bâtir la paix vise à réveiller les saisons nouvelles de l'avenir. Et bâtir la paix signifie communiquer. Eh bien, ça me fait plaisir d'avoir communiqué avec vous. Ce manifeste pour la paix, ça a été co-créé par André Jacob, mais aussi par Raoul Duguay. Et le président actuel des artistes pour la paix, c'est Pierre Jasmin. Et puis, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vais vous parler de la paix davantage la semaine prochaine. Et c'est Claude Saint-Jean pour nous le futur. C'est à vous le futur. Et je vous souhaite santé et joie, t'sais, dans le système de santé actuel. Là. Allez voir Grenoble, la ville de Grenoble. Elle fait une sorte de consultation pour la santé, pour le soin du care, tu sais. En France, là, le care, c'est très important. Fait que ils ont de l'empathie à Grenoble. Et on va peut-être, en le lisant puis en s'informant là-dessus, on va peut-être réussir à en importer à la CAQ et dans le système de santé actuel. Parce que faut pas oublier que 50 %, c'est-à-dire 50 milliards de dollars, vont dans le système de santé. Faudrait d'une part diminuer les maladies, comme la SPQ le propose, l'Association pour la santé publique du Québec. Et puis, d'autre part aussi, prévenir la maladie et faire la promotion de la santé, comme le livre « La révolution active » de M. Després le suggère. Il va peut-être avoir une entrevue en décembre avec M. Després là-dessus. Alors, tu sais, on dépense 50 milliards pour guérir la maladie, pourquoi pas 20 milliards au maximum et 30 milliards d'épargnés parce qu'on est 30 milliards de moins malades. D'accord? Je vous souhaite ça. Salut!